la communication que je vous présente, que je m'apprête à vous présenter au sujet de métaphysique de la fin chez Amélie Nothomb, c'est pour ça comme une sorte de prolongement donc, de mon mémoire de maîtrise en recherche-création dont la partie essai traitait en grande partie du roman Biographie de la fin d'Amélie Nothomb sous l'angle d'une potentielle réincarnation du corps anorexique à travers la performativité textuelle. Il s'agit maintenant aujourd'hui d'élargir le corpus et d'observer comment l'œuvre entière de l'auteur s'élabore autour et à travers la fin, qui est tout à la fois moteur et sujet de la création, et ultimement de voir pourquoi on pourrait parler de métaphysique de la fin qui imprégnerait la création d'Automienne. Cultivée ou comblée, naviguant entre ascèse et excès, la fin parcourt son œuvre marquée par l'intensité, évoluant d'un extrême à l'autre. Nothomb tisse à travers son œuvre une métaphysique complexe réunissant des concepts traditionnellement antagonistes, les faisant se côtoyer et frayer dans un certain esprit carnotalesque, tissant une sorte de témoignage de la relation complexe et problématique qu'entretient l'auteur avec son propre corps, habitant l'ennemi intérieur. Si vous connaissez un tant soit peu Nothomb, vous avez sans doute relevé l'ambition de telle proposition, d'autant plus celle-ci s'attaque à la globalité d'une œuvre titanesque. C'est un fait et par conséquent, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout de mon sujet qui mériterait une recherche de beaucoup plus grande envergure et proposerait plutôt une amorce de réflexion sur cette idée. On ne présente plus Amélie Nothomb, romancière belge soi-disant née au Japon en 1967, à laquelle on appose nombre de qualificatifs. Monstre littéraire, dame au chapeau, personnage médiatique, graphomane et mon préféré, celui d'éternel affamé, pensé par Lomeline Amalieu dans son étude Amélie Nothomb, l'éternel affamé. Cet auteur, donc affamé, publie chez M. Paul, Alain Michel, pardon, un roman à chaque entrée littéraire, mais en écrit beaucoup plus qu'elle conserve au réfrigérateur, c'est-à-dire sa réserve de textes top secret qui sera non publié. Son univers fictionnel est étant teinté d'autoréférentialité, notamment dans ses conditions comme étant son cycle autobiographique, composé de métaphysique de tube, le sabotage amoureux, stupeur et tremblement, l'idée d'Adam et biographie de la fin, auquel on pourrait ajouter plusieurs de ses œuvres des toutes dernières années, telles qu'une forme de vie, la nostalgie heureuse et étranglée. Comme le remarque l'un des personnages du journaliste de son tout premier roman « Hygiène de l'assassin » paru en 1991, au sujet de l'œuvre de l'écrivain fictif Prétexte Attaque, et que l'on pourrait tout aussi bien appliquer à l'œuvre de Nothomb elle-même, « Ce que vous mangez, on sait que cela occupe une place importante dans votre vie. La gastronomie et sa conséquence naturelle, la digestion, sont au cœur de certains de vos romans récents comme « Apologétique de la dyspepsie ». Œuvre qui me semble recéler un condensé de vos préoccupations métaphysiques. Était-ce là une étrange prophétie de la part de l'auteur, mais ce titre apologétique de la dyspepsie, écrit par Tack, ressemble vaguement au titre biographie de la fin de Nothomb, publié plusieurs années plus tard, et qui pourrait lui aussi faire figure de traité rassemblant une certaine métaphysique englobant l'œuvre entière. Paru en 2004, Biographie de la fin est un texte à la narration autodiégétique et au parcours autofictionnel construit autour de la relation tortueuse que l'auteur a entretenue avec la fin dans son passage de l'enfance à l'âge adulte, troquant les scènes de nourriture sucrée et d'alcool pour l'anorexie à l'âge de 13 ans. Le début du roman présente le Vanuatu, une île du Pacifique qui se trouve à être l'unique endroit au monde où les habitants n'ont jamais connu la fin, un pays d'individus constamment repus, qui est, écrit Nothomb, l'expression géographique de mon contraire. En effet, Nothomb déclara dans une formule qui lui est toute familière, « La fin, c'est moi. » La fin habite certes la protagoniste, toutefois, il ne s'agit pas d'une fin ordinaire, mais d'une fin existentielle, une toute fin. La fin, c'est vouloir. C'est un désir plus large que le désir, c'est la volonté qui est force. Ce n'est pas non plus une faiblesse, car la fin ne connaît pas la passivité. La famille est quelqu'un qui cherche, écrit Nothomb. Selon Isabelle Levet, l'auteur de l'ouvrage de récit créatrice traitant des relations sous-jacentes entre famille et écriture, l'activité d'écriture, qui comme expérience de la fin, évoluerait autour d'une structure rythmique organique fondée sur les sensations internes de l'auteur. Le texte deviendrait ici esthétique de cette expérience d'alternance entre vide et plénitude, une figuration en lien étroit avec les variations de l'appétit et de la satiété. Cette inscription marquée par la tension physique prend éventuellement corps elle-même dans sa forme. L'écriture se règle comme la fin sur le manque et la plénitude des chimères. Elle est aussi construction d'un corps sans organes car elle oscille entre le compact et l'aéré, la soudure et la rupture. Il est intéressant de mettre en parallèle ce concept des futurs fins avec l'esthétique un peu plus épurée et dégraissée de notre homme, comme une réminiscence de la famine vécue, mais aussi en regard de l'hygiène des futurs même de l'auteur. En effet, celle-ci déclare être proprement incapable d'écrire le ventre plein. Elle dit, je cite, « Il importe d'être vide pour écrire, donc pas question de manger. » Et ainsi que les témoins en entrevue avec la revue L'Actualité, la faim a des effets sur le cerveau et pour atteindre l'écriture que je souhaite, j'ai besoin d'avoir très faim. Au réveil, j'ai l'urgie d'un coup du thé infect parce que beaucoup trop fort. L'idée, c'est de me faire exploser la tête avec une trop grande quantité de théine dans un estomac vide. Le texte devient ainsi performatif de cette transfaminique. D'après Meret, la faim se conçoit comme une métaphysique dans Biographie de la faim, concept de métaphysique que je lui emprunte d'ailleurs directement et sur lequel nous reviendrons, nous aurons l'occasion de revenir tout simplement au cours de la présentation. À la fois processus de création, sujet d'écriture et mode d'expression, la faim de notre homme cultivé et ritualisé car essentiel à l'écriture, naît avec le texte, mais finit par s'inscrire et imprégner l'esthétique de celui-ci, car toujours selon Meret, elle puise au cœur de la faim qui la tarde, en fait son moteur, mais aussi sa destinée. Sur l'un de ces pans de cette thématique digestive, cette faim se déploie à travers une thématique de digestion omniprésente. On peut parler de digestion chez notre homme sans aborder les métaphysiques des tubes, publiée à l'an 2000, une œuvre auto-fictionnelle dans laquelle l'auteur réécrit sa prime enfance au Japon. D'abord plongé dans une torpeur autistique pour les deux premières années de sa vie, bébé Amélie, que l'on appelle le tube, qui est en l'occurrence un tube digestif, est appelé Dieu. C'est alors le règne de la toute-puissance digestive. Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion, conséquence directe, l'excrétion. Dieu ouvrait tous les orifices nécessaires pour que les aliments solides et liquides le traversent. Toutefois, une fois sortie de sa torpeur tubulaire, lorsqu'elle reçoit des cartes comme cadeau d'anniversaire assez catastrophique, c'est une fascination morbide que la jeune Amélie voue à ses tubes digestifs vivants qui l'horripilent, au point de perdre son désir de vivre, comme aspiré par le néant qu'ils inspirent. En effet, les cartes présentent une existence qui semble se résumer à leur avidité dévorante, ainsi qu'en témoigne le portrait qu'en voit la narratrice. Le diamètre de leur orifice était presque égal au diamètre de leur corps, ce qui évoquait la sélection d'un tuyau. Ses bouches en forme de bouée qui lui fait ma bouffe avant de me bouffer moi. Comme le relève Christina Alvarez dans son article « Une subjectivation extravagante, métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb », cette dévoration se traduit concrètement dans l'amaigrissement physique de l'enfant qui s'ensuit, qui perd simultanément le goût à la vie. On assiste ici à l'entrée en jeu de ce que l'auteur appellera l'ennemi intérieur, car si la petite Nothomb est proprement réussie par ses quatre tubes, c'est parce qu'elles sont un miroir dans lequel elles constatent son propre reflet et reconnaissent son avidité dans leur bouche outrageuse dans le grand, comme le lui suggère cette voix mentale qui l'apostrophe. Et toi, que crois-tu être l'autre? Tu es un tube sorti d'un tube. Ces derniers temps, tu as eu l'impression glorieuse d'évoluer, de devenir de la matière pensante. Tout est-ce? La bouche des cartes te rendrait-elle si malade si tu ne voyais ton miroir ignoble? Souviens-toi que tu es tube et que tube, tu redeviendras. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière pour faire le bon contrôle. Dans une sorte de mythe de l'artiste inversé, qui, rappelons-nous, est écrit de sa propre image, que lui renvoyait l'eau au point de périr noyé pour connaître fleur, la jeune automne épouse le reflet d'elle-même qui se trouve sous la surface de l'impression de l'eau. C'est alors qu'Amélie se jette dans les temps des cartes dans lesquels elle se sent redevenir le tube parmi les tubes, accomplissant ainsi sa métamorphose essentielle. La chose de moins en moins vivante se sent redevenir le tube qui n'a peut-être jamais cessé d'être. En ce qui concerne l'ingestion d'aliments, comme c'est le cas pour l'anorexie qui fantasme continuellement sur les nourritures interdites, l'alimentation est un motif obsédant dans l'univers de notre homme. Ça fait vraiment l'univers du récit notamment. Celle des assassins est donc celle de l'ennemi et se trouve particulièrement intéressante à observer car de l'ordre de cette souffrance qu'évoquait notre homme dans Biographie de la faim. D'une part, on trouve dans Hygiène de l'assassin, son premier roman, l'alimentation monstrueuse de l'écrivain obèse prédestataire, qui ressemble plutôt à un festin d'ogre composé de tripes froides, de cervelles et d'abats de tout genre, et qui confère une dimension cannibale au personnage, et dont les descriptions graphiques vont même jusqu'à les faire vomir l'un des journalistes. Alimentation essentiellement carnée que l'on peut rattacher au cadavre de sa cousine Léopoldine, qui l'a assassinée étant adolescente. Amateur de cocktails qu'il baptise Alessandra en honneur de l'Alexandrin poétique, Prétexta affirme manger comme il vit et lire comme il mange. Dans une confusion des flux, mots et nourriture sont assimilés par Prétexta. Tous deux sont boulimiquement ingérés et modifient ses composants. D'autre part, l'alimentation alchimique de Don Emilio, la barbe bleue du roman éponyme publié en 2012, se construit autour de l'œuf, pour lequel le torsionnaire écrit au même vous une véritable passion théologique. Il dit « À 20 ans, j'ai tenté l'expérience de consommer des œufs ad libitum pendant 15 jours, mais 6 œufs quotidiens me mettaient en transe. » La raison de cette adoration absolue pour l'œuf trouve une explication chromatique vers la toute fin du récit. C'est en fait de la couleur jaune contenue au centre de l'œuf dont Don Emilio est éperdument épris, le jaune étant selon lui la couleur métaphysique par excellence. Car ainsi que les alchimistes avaient compris, c'est la couleur du spectre qui correspond à l'or. Ce qui explique parallèlement la passion qu'il voue au champagne, boisson de couleur d'or que ce meurtrier vénère, tout comme l'auteur elle-même qui consacre cet alcool dans nombre de ses textes et entrevues. Pour revenir sur l'œuf dans l'armée bleue, celui-ci est promu au rang d'aliment divin. Ici, il est consommé et fétichisé par Don Emilio. Ce n'est pas tant pour ses propriétés gustatives que pour une essence alchimique dont il est porteur. Qu'elle soit donc ascétique ou diabolique, dégoûtante ou sublime, l'alimentation des assassins notamiens dépasse le cadre du plaisir gustatif et devient objet de l'appétit psychique. Elle devient véhicule privilégié pour conduire le sujet à la transe, état second que l'on pourrait justement qualifier de métaphysique transcendantale, transe qui est, rappelons-le, l'état même dans lequel s'écrit le texte notamien. Pour ce qui est des personnages, chez Notum, le maigre et l'obèse s'affichent en surimpression dans une réunion des antagonistes convoquant le concept d'ennemi intérieur. Débutons par l'obésité. Comme l'ont remarqué plusieurs critiques et chercheurs, Amélie Notum fait de l'obèse un personnage vraiment récurrent dans son œuvre, trop récurrent en tout cas pour être tout simplement anodin. L'un de ses derniers-nés est Melvin Maple, un soldat américain obèse basé en Irak, un correspondant inventé de toutes pièces par Notum dans son roman Une forme de vie, paru en 2010. Chez Melvin, l'obèse est associé à une expansion du vide, ainsi qu'en témoigne la description de son portrait photo par la narratrice. C'était une beau soufflure en expansion. On sentait cette chair en continuelle recherche de possibilités inédites de s'étendre, d'enfiler, de gagner du terrain. C'était la conquête du vide par l'obésité, grossir, annexer le néant. Comme le remarque Alvarez, l'obésité est chez Notum la face visible et substantielle du néant, de l'inertie du tube. À ce chapitre, comme c'est le cas pour Melvin Maple, le cauchemardesque couple Bernardin des quatre culinaires, paru en 1995, illustre très bien ce concept. Par la nette, Bernardin était, je cite, d'autant plus vide qu'il était gros, comme il était gros, il n'avait plus de volume pour contenir son vide. Ainsi, les improbables époux Bernardin provoquent chez les autres, qui sont leurs voisins minces, la même révolution fascinée que les cartes provoquent chez la jeune Amélie, 3 ans, de par leur réduction de corps à la bouche, et donc liée à l'inertie et à l'avidité tubulaire. Ainsi, qu'en témoigne cette scène où Bernadette Bernardin boit tout simplement un verre de lait de manière tout à fait efficiente. Le Rufus copula ce qui lui servait de lait et se mit à aspirer. Le lait fut sucé en un seul coup, mais avalé en plusieurs fois, chaque déglutition faisant le bruit d'une ventouse en caoutchouc en train de déboucher un liquide. L'obésité notomienne, ce qui se conçoit comme une énorme masse creuse taillée en forme de tube, est définie comme le pendant inverse de la maigreur ou de l'anorexie, qui, elle, se percevrait plutôt comme une émaciation dense et pleine, qui ne se concevrait non pas comme un tube, mais plutôt comme un œuf plein au centre d'or, évidemment. L'obèse ou le tube représente donc l'avidité négative, mortifère et inerte, et l'espace vide contenu dans ce tube est l'endroit privilégié pour adopter un ami. Or, ainsi que le souligne Lorraine Ananiou en entrevue avec Malcolm, la figure récurrente de l'obèse aurait un lien étroit avec la présence de l'ennemi intérieur, si l'on se fie aussi au dire de l'auteur, et qui dit, je cite, « Manger, c'était le diable, c'était le mal, et forcément, une personne grosse était une personne très entourée par le mal, parce qu'elle avait beaucoup mangé. Donc, l'obèse était pour moi une personne diabolique, maléfique. » En ce qui concerne la maigreur, comme le relève Gaël Séné et Bernard Cabot, au terme d'un recensement exhaustif suivi d'une lecture approfondie des manifestations de fantasmes anorexiques dans l'œuvre d'Amélie Nothomb, Les écrits de cet auteur ne parlent jamais d'anorexie mentale explicitement, sauf dans le roman Robert Desmontpop, ainsi qu'on l'a vu, Biographie de la faim. Mais cependant, l'anorexie mentale et sa problématique sont partout et teintent même le regard des narrateurs. Il est donc évident, à la lecture de plusieurs romans, que la maigreur des personnages féminins prend une place essentielle dans l'œuvre de l'auteur. Il y a effectivement une glorification et esthétisation de saintes maigreurs, si je puis dire, au sein de l'univers d'Atomien, qui, dans la totalité des cas, est lié à l'image d'une éternelle enfance. Ou du moins d'une certaine pureté juvénile de l'âme, et donc liée à l'éveil, à la vie, à l'inverse de l'obèse, qui est toujours représentée vieillard, mouvant ou handicapé. Le cas de Juliette Hazel dans Les Quartiers Lunaires, qui est l'avatar fictif de Juliette Tom, la sœur de l'auteur, est assez éloquent à ce sujet. Sa minceur vive et alerte est même mise en contraste avec l'obésité patibulaire du voisin parallèle. Le contraste entre sa silhouette frêle aux yeux habités et la masse inerte de notre voisin ne manquait pas de celle de Marc, le narrateur, et Lily, son conjoint. Quant à Panonique, une héroïne sacrificielle du roman Acide sulfuré, datant de 2005, c'est l'image même de cette simple maigreur, car malgré son dépérissement dû à son inhalation dans son emprisonnement dans le camp de concentration où il est détenu, la jeune femme s'entête à partager son chocolat quotidien aux autres captifs du campement. De surcroît décrite comme infiniment sage et belle, mais d'une beauté qualifiée de médiévale, Panonique figure, on l'aura compris, l'image même de la martyre salvatrice, peut-être même davantage encore, car dans l'abnégation absolue de sa faim au profit de la survie de ses prochains, cette jeune fille devient divinité. Elle ne serait pas le Christ, pas question de jouer les victimes expiatoires, elle serait Dieu, principe de grandeur et d'amour. Un retour de Dieu, mais qui n'est plus Dieu le Dieu, mais Dieu l'œuf, et qui témoigne d'une certaine ambition psychique certaine. La scène mystique est également présentée dans Robert des Bonfocs, qui retrace la jeunesse de la chanteuse Robert, qui est une amie de elle-même, qui est aussi marquée par l'anorexie. Assimilée au ballet classique auquel s'adonne Prélectude, l'avatar de Robert dans le roman, l'anorexie se vit comme un envol, une fuite hors de soi qui correspond à la réussite d'une domination ascétique totale de l'esprit sur le corps. Dans cette transe causée par la faim, l'esprit s'évade du corps cage qui l'entrave. L'esprit est donc affamé, avide d'une expérience surhumaine, et c'est ce qui est mis en scène avec Prélectude, mais aussi chez plusieurs héroïnes féminines de notre homme. Dans l'ascétisme, comme dans la gloutonnerie, c'est dans un rapport extrême avec la faim et la satiété, conduisant à une sorte de transcendance que les figures maigres et obèses se ressemblent et se recoupent chez notre homme. Non seulement les gestions ou le refus d'aliments sont omniprésents, mais comme l'a observé Emmanuel, les œuvres de notre homme sont aussi le théâtre d'affrontements alimentaires récurrents. Elle dit, je cite, « On peut lire dans l'œuvre notomienne des scènes dans lesquelles un personnage en oblige un autre à manger, transformant la nourriture en support d'un affrontement douloureux. » C'est le cas, par exemple, du maigre couple Hazel qui cherche désespérément à nourrir leur voisin, le couple Bernardin obèse des calcinaires tout le long du roman. Et des affrontements, ce n'est certainement pas ce qui manque chez notre homme, qui fait de la confrontation sa dynamique littéraire essentielle, noyau dur qu'elle traduit par un puissant dialogisme. Comme l'a remarqué Evelyn Gilbert dans Auteur d'Amélie Nothomb sous le signe du cinglant, l'arme préférée d'Amélie Nothomb, c'est le dialogue. Elle maîtrise parfaitement cette technique. Toujours dans l'évocation du langage comme d'une arme, Gilbert ajoute que le ton d'Amélie Nothomb est péremptoire, incisif, percutant. Chaque mot, chaque phrase va droit au but dans un rythme vif et nerveux. Cet art du dialogue que Nothomb maîtrise à merveille, qui est aussi un art du combat contre l'autre, mais surtout contre soi dans ce cas-ci, est selon nous le terrain d'un transfert de propriété, voire même d'une réincarnation d'un opposant à l'autre. Cette contamination se retrouve fréquemment entre individus maigres et obèses, chez qui tout semblait diverger et qui deviennent ici des vases communicants, ainsi que l'illustre cette scène finale tirée d'Hygiène de l'assassin. La même jeune femme contemplait avec dégoût le faciès illuminé du gros vieillard. C'est la journaliste qui répond à Prélesta, lui répondant « Que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de devenir mon avatar. » Ces affrontements se sonnent plus souvent qu'autrement par la mort de l'un ou l'autre personnage, mais dans la logique de l'incarnation de cet auteur, tuer l'autre vient à l'assimiler et plus spécifiquement à l'incorporer par dévoration, ainsi qu'on peut le déceler à travers le regard de la journaliste qui entrevoit bourgeois, le corps chétif de Léopoldine à travers le corps obèse de son assassin qui est excitant. À travers votre corps hypertrophié, dit-elle, j'ai l'impression de voir se découper une fine silhouette que votre souffrance soulage. On insiste ainsi à un rapprochement entre des principes considérés comme antithétiques d'une relecture du dualisme, ce qui teinte l'univers de notre homme d'un esprit carnavalesque. Notre homme dynamique par l'écriture qui aussi travaille sur son corps, la dichotomie cartésienne occidentale, mais ces mots ne sont n'étant plus des figures distinctes, mais double facette d'une même instance. Sous la maigreur se cache l'habilité sans fin et sans fin effarienne, et derrière chaque jeune anorexique se cache un vieillard hyperphagique obèse, l'un l'autre se superposant, cohabitant en ennemi qui s'assimile l'un l'autre. Ce qui rejoint les concepts d'ennemi intérieur développés par l'auteur dans plusieurs de ses textes et qui, joint à nos précédentes réflexions, nous invite à postuler contre les personnages fictifs de notre homme et elle-même, il n'y a que l'interface de la page. L'auteur se projette très simultanément entre ces personnages, ce qui rejoint la vision d'un soi mythique comme Virginia Woolf à travers ses multiples protagonistes dans son texte de Waves, dans lequel celle-ci affirme « I am not one simple, but complex and many ». Dans cette optique, chacun de ces personnages est en quelque sorte avatar d'une facette de notre homme elle-même, complexe et plurielle. Certains abandonnent son côté glorieux qu'elle sanctifie, prenant souvent la forme d'une maigreur ascétique. D'autres incarnent sa part dans l'obésité tubulaire, s'inscrivant dans une sorte de continuité du moi. Parmi ces autres, il y a soi-même. On fit notre homme en entrevue. On est un autre pour soi, non le moindre. J'habite avec un autre qui est mon ami intérieur. Quand j'écris, je lui réponds. C'est le moment du duel où il trouve un adversaire à sa mesure. Il est temps de clore brièvement cette présentation. Une question demeure. Pourquoi donc parler sans cesse de métaphysique dans le cas de notre homme? L'un des centres d'intérêt fondamentaux de la métaphysique traite de la question du lien qui unirait le corps et l'esprit, question qui, comme nous l'avons vu, paraît hanter notre homme et son œuvre. De plus, les principes de cette transcendance s'articulant à travers la fin semblaient être annoncés par l'auteur elle-même par le biais de son tout premier personnage, Pépin-Sapard. Je considère que la métaphysique est le mode d'expression privilégié du métabolisme, dit-il. Dans le même ordre d'idées, puisque le métabolisme se divise en anabolisme et en catabolisme, j'ai scindé la métaphysique en anaphysique et en cataphysique. Il ne faut pas y voir une tension dualiste, mais les deux phases obligées et ce qui est inclus inconfortable simultanées d'un processus d'un pensée voué à la trivialité. Si l'on se fie à la logique de prétextat, l'écriture, en l'occurrence l'écriture dialogique, serait ce qui permettrait à notre homme de réunir et de faire cohabiter ses temps et passes d'elle-même dans une quête métaphysique d'accorder le corps et l'esprit dans leur pulsion rivale. On peut lire dans cette tentative de communication une quête de réconciliation avec son ennemi intérieur, ainsi qu'en témoigne Melvin Maple dans une lettre adressée à notre homme, autrement dit que notre homme s'adresserait à lui-même. J'ai l'impression que vous me comprenez. J'ai l'impression que vous me comprenez. Je sais que vous avez souffert de problèmes alimentaires, mais très différents. À mon avis, cette quête unificatrice n'aboutit ou n'aboutira jamais, c'est pourquoi elle est toujours à recommencer, car l'auteur resterait toujours sur sa faim, toujours en prise avec en soi, un ennemi dans une cohabitation toutefois rendue plus vivable grâce au travail littéraire. Là-dessus, à la toute fin d'une forme de vie, alors que le personnage de notre homme cherche à esquiver sa rencontre physique avec son correspondant Obèse et Melvin, et donc à fuir son ennemi, elle s'interroge, depuis que tu as commencé à écrire, quelle est ta quête? Questionnement auquel il offre une réponse qui semble confirmer nos spéculations. Tu le sais, si tu écris chaque jour de ta vie comme une possédée, c'est parce que tu as besoin de issue de secours. Être écrivain pour toi, cela signifie chercher désespérément la porte de sortie. Tu seras libéré de ton principal problème, qui est toi-même. On peut considérer cette démarche d'écriture comme une forme de réincarnation pour l'auteur et ultimement une manière de cohabiter avec son corps réel suite à la désincarnation d'anorexie et au combat perpétuel avec ce qu'il appelle son ennemi intérieur. La parole est un compte de langage et le langage n'est pas immatériel, il est corps subtil, mais il est corps écrit d'ailleurs pour la corps.
Comme il est confirmé en notre temps, qu'on va devoir clore maintenant, le temps est un petit peu limité, donc merci. Merci, c'était particulièrement intéressant. Donc, je pense que tu as bien mis la table au début. J'ai vraiment aimé cette mise en fin, justement, de la scène, de l'écriture, d'Amélie Nothomb. Donc, cette préparation du corps, hein, cette espèce de besoin de se vider pour laisser entrer les mots. Donc, c'était particulièrement intéressant. Et ça, je pensais à Nous comme sommes, sur lequel tu as peut-être déjà travaillé. Est-ce que tu as lu la fin? donc le roman d'Armstrong, où il y a vraiment justement un personnage qui se laisse lui-même habiter par la faim, mais contrairement à Noton qui a besoin de ça, donc une sorte de recueillement pour se mettre à table, pour se mettre à écrire. Lui, il est en fuite perpétuelle, donc c'est quelqu'un qui est affamé, il cultive ça. Donc, il a besoin de travailler pour avoir l'argent, pour s'acheter la nourriture. Et à chaque fois, donc, il repousse un peu ce moment. Donc, il a de l'argent, il le perd.